Vous écoutez, on lit pour vous.
Itinérance. Québec diminue l'aide destinée à Granby. Un texte de Jérôme Savary, paru le 18 février 2025 dans La Voix de l'Est. Granby n'y trouve pas son compte. Une approche policière novatrice, déjà en place auprès des personnes vulnérables, sera amputée de près de 100 000 $ par année par le ministère de la Sécurité publique, MSP, indique la mairesse de Granby, Julie Bourdon. L'implantation de projets policiers mixtes, prévoyant l'intervention combinée de policiers et d'intervenants sociaux auprès de personnes vulnérables, recevra de nouvelles subsides de Québec, a annoncé lundi matin le ministre de la Sécurité publique et député de Granby, François Bonnardel. Ainsi, 5,5 millions supplémentaires sur 3 ans sont accordés à 11 nouveaux corps de police. D'autres services de police, comme celui de Granby, bénéficiaient déjà d'un tel programme et d'une aide du MSP. Le service de police de Granby recevra, plus précisément, 345 000 $ pour les années 2025 à 2027, a précisé Bruno Grondin, directeur du service de police à la radio M105. Ça va venir consolider notre équipe UNIR, qui travaille au quotidien sur le terrain dans le dossier de l'itinérance et de la santé mentale en collaboration avec nos différents partenaires, dont les organismes communautaires et le CIUS, a-t-il ajouté. Encore une fois, des coupes. Oui, on a de l'argent du ministère de la Sécurité publique, mais on a encore une fois des coupes, regrette Julie Bourdon, questionnée à ce sujet en mêlée de presse lundi soir après la séance du conseil municipal. La ville devra, selon elle, combler un manque à gagner annuel de près de 100 000 $ comparativement à l'enveloppe qui avait été précédemment accordée, soit près du quart de celle-ci. Si la mairesse dit comprendre que les coupes budgétaires du gouvernement du Québec interviennent à tous les niveaux, elle rappelle que les besoins pour contrer l'itinérance sont énormes. « On les mentionne tout le temps », dit-elle. Pour un plan de lutte coordonné au Québec. La mairesse Bourdon réitère d'ailleurs son souhait de voir le gouvernement du Québec coordonner davantage les actions de ses ministères concernés par la lutte à l'itinérance. On peut-tu, à un moment donné, faire travailler l'ensemble des ministères concernés par l'itinérance? Qui se parlent tous ensemble? Et qui fassent un plan coordonné de lutte à l'itinérance au niveau national? Demande-t-elle. Nous, les municipalités, on fait des plans. Mais on ne se sent pas tant d'appui, ajoute Mme Bourdon. On a l'impression, des fois, de travailler seul. La ville de Granby a investi environ 1 million dans la lutte à l'itinérance en 2024. La mairesse, évoquant l'implication du service de sécurité incendie, les subventions qu'on donne aux organismes communautaires ou le temps des policiers communautaires, par exemple. Pour 2025, elle souhaite que davantage d'aides soient offertes aux personnes aux prises avec des dépendances, nous avait-elle dit lors de l'entrevue de fin d'année qu'elle nous avait accordée. Granby, signataire d'une déclaration commune. Le conseil municipal de Granby s'est également engagé, lundi soir, à signer la Déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale et de pauvreté du réseau Solidarité Itinérance du Québec. Cette déclaration a été rédigée lors des 4e États généraux de l'itinérance tenus à Québec en novembre 2024, précise le sommaire décisionnel remis aux médias. Environ 450 personnes de différents milieux s'y sont rencontrés afin de renverser la tendance en itinérance. Le sommaire décisionnel indique qu'en signant la déclaration, la ville de Granby s'engage dans une transformation sociale profonde afin d'accroître la capacité collective à prévenir la précarité et à soutenir chaque membre de la communauté et ainsi à prévenir et réduire significativement l'itinérance au Québec. C'était « Itinérance, Québec diminue l'aide destinée à Granby », un texte de Jérôme Savary, paru le 18 février 2025 dans « La Voix de l'Est ».
Maladie de Charcot. Un traitement expérimental suscite de nouveaux espoirs. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 6 février 2024 dans Science et Vie. La sclérose latérale amyotrophique, SLA, communément appelée maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative mortelle. Elle entraîne le décès du patient dans les 2 à 5 ans suivant le diagnostic. Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Une équipe de l'Université Northeastern a trouvé le moyen de stabiliser une protéine impliquée dans certaines formes de la maladie. Leur traitement, qui montre de bons résultats sur les souris, pourrait aider à prolonger la vie des patients. La maladie de Charcot affecte les motoneurones, provoquant une paralysie progressive des muscles. Son issue est fatale. La plupart des patients ne survivent pas plus de 5 ans après le diagnostic. Le plus souvent, le décès fait suite à l'atteinte des muscles respiratoires. L'origine de la maladie est complexe. Si elle survient généralement de façon sporadique, on estime que 5 à 10 % des cas résultent de mutations génétiques héréditaires. On parle de SLA familiale. Environ 20 % des SLA familiales sont associés à des mutations du gène codant pour une enzyme appelée superoxyde dismutase, CU-ZN, notée SOD1. Les mutations sont généralement héritées de façon dominante, très pénétrante, et associées à des degrés variables de sévérité de la maladie, notent les chercheurs dans PLOS Biology. Dans leurs études, ils présentent un moyen de pallier les effets néfastes de ces mutations. Une modification structurelle toxique. Dans sa forme non mutée, l'enzyme SOD1 est un dimère stable qui neutralise les radicaux libres oxygénés délétères pour les cellules. Les mutations du gène provoquent un changement structurel. SOD1 se dissocie en monomères qui peuvent se coller à des millions d'autres monomères. Cette déstructuration empêche non seulement SOD1 d'accomplir ses fonctions, mais entraîne la formation d'agrégats toxiques au sein des cellules. Ceux-ci se développent à mesure que la maladie progresse, jusqu'à provoquer la mort cellulaire. La mutation A4V est particulièrement dévastatrice. Les patients porteurs de cette mutation survivent rarement plus d'un an après le diagnostic. Les patients porteurs de la mutation H46R, en revanche, survivent 18 ans en moyenne. De nombreuses études ont également mis en cause la SOD1 de type sauvage dans la SLA idiopathique et sporadique. Cependant, son rôle reste flou. Les efforts de recherche sont donc axés sur le développement de composés capables de stabiliser le dimère des variantes de SOD1. Jusqu'à présent, ces travaux n'ont abouti à aucun traitement curatif. Des chercheurs de l'Université Northeastern rapportent aujourd'hui des résultats encourageants. Ils ont trouvé un moyen d'empêcher la formation de monomères et ainsi d'éviter la destruction des cellules. Leur stratégie repose sur l'utilisation d'une petite molécule de liaison, dénommée SXL6, qui va jouer le rôle de stabilisateur. Elle oblige la protéine à conserver sa configuration normale, qu'il s'agisse du type sauvage ou d'une variante. Contrairement à l'approche de Biogen, qui diminue la fonction de la SOD1, Notre méthode aide la protéine à retrouver sa fonction normale, explique Jeffrey Hager, professeur associé de chimie et de sciences pharmaceutiques à Northeastern, qui a dirigé l'étude. Une fonction enzymatique à préserver. Le tofersen, co-développé par Biogen et commercialisé sous le nom Qalsody, a été approuvé pour un usage médical aux États-Unis en 2023. Administré aux malades par ponction lombaire, il réduit le niveau de la protéine SOD1 dans les cellules du liquide céphalo-rachidien. Ce traitement permet d'améliorer l'espérance de vie, mais n'est efficace que sur certaines formes bien spécifiques de la maladie. En outre, ce type d'approche thérapeutique nécessite un titrage minutieux des doses afin d'équilibrer le bénéfice de la diminution de l'expression de SOD1 avec la toxicité induite par la perte de la fonction enzymatique. SXL6 ne partage pas cette responsabilité car elle rétablit l'activité des variantes de SOD1 impliquées dans la SLA familiale, soulignent les chercheurs. Jeffrey Hager rappelle par ailleurs que dans près de la moitié des cas de SLA, aucune mutation de la protéine SOD1 n'est en cause. Néanmoins, la protéine subit tout de même des dommages en essayant de protéger la cellule contre les radicaux libres. Cela signifie que ce traitement expérimental peut potentiellement aider à stopper la progression de la maladie et améliorer la survie de la moitié des cas de SLA, et non uniquement ceux liés aux mutations sur SOD1. Les essais menés sur des souris sont prometteurs. Chez les animaux traités, les protéines assuraient correctement leur fonction protectrice. Les protéines SOD1 associées aux mutations A4V et G93A affichaient une activité comparable à celle du type sauvage. De plus, le produit a stoppé les effets toxiques secondaires liés à la mutation. Plus précisément, les chercheurs affirment avoir réussi à stabiliser 90% des protéines SOD1 dans les cellules sanguines et 60 à 70% dans les cellules cérébrales. À noter que ce traitement ne permet pas d'inverser les dommages déjà causés aux neurones et aux muscles. Il est en effet difficile de rétablir les connexions neuronales perdues. Des facteurs génétiques, mais aussi environnementaux. Malgré ces résultats prometteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer pleinement le potentiel thérapeutique de la stabilisation de la SOD1 par SXL6. La charge pharmacologique de cette stabilisation dans un modèle murin est en effet beaucoup plus élevée que chez les humains. Le laboratoire Dagger procède actuellement aux derniers tests d'efficacité et de sécurité nécessaires aux essais cliniques. Nous voulons passer aux essais cliniques aussi vite que possible. Il ne nous reste que 4 millions de dollars à dépenser, explique le professeur. En collaboration avec plusieurs entreprises pharmaceutiques, il cherche également à fabriquer de nouvelles molécules dans l'espoir d'améliorer encore le traitement. Grâce à ce médicament et aux autres traitements actuellement disponibles, comme le tofersen, les patients atteints de SLA pourront potentiellement vivre plus longtemps. Si la maladie est diagnostiquée à un stade précoce, les patients peuvent encore marcher, parler et poursuivre leur vie, rappelle Hager. En France, la SLA affecte environ 8 000 patients avec une incidence annuelle proche de 2,5 pour 100 000 habitants. À savoir que Santé publique France enquête actuellement sur la mort de 5 personnes décédées de la SLA entre 2008 et 2022. Il se trouve que ces personnes habitaient toutes dans la même rue d'un petit village près d'Amiens. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle d'une communauté savoyarde de 200 habitants où 14 personnes sont décédées de la SLA entre 1991 et 2013. Ces clusters suggèrent que les facteurs environnementaux et comportementaux ne sont pas étrangers à l'apparition de la maladie. En effet, une étude a finalement révélé qu'un champignon génotoxique était à l'origine des cas de Savoie. C'était « Maladie de Charcot. Un traitement expérimental suscite de nouveaux espoirs ». Un texte de Fleur Brosseau, paru le 6 février 2024 dans Science et Vie.
ces écrans qui nous bouffent le cerveau. Un texte de Maud Goyer, paru le 11 février 2025 dans la presse. La multiplicité des écrans dilue la concentration des travailleurs. Ceux-ci se retrouvent en constant déficit d'attention, à butiner d'un sujet à l'autre, qu'il soit professionnel ou personnel. Et en fin de journée, plusieurs se retrouvent épuisés, même s'ils ont l'impression de n'avoir rien fait. Des solutions existent. Je passe d'une réunion à l'autre en visioconférence toute la journée, raconte Karine Marchand, 36 ans, gestionnaire dans le milieu de la santé. À l'heure du lunch, j'utilise un autre écran pour régler des trucs personnels. Le soir, je me retrouve devant la télé pour me détendre. Je me couche et me lève avec le téléphone dans les mains pratiquement. La Montréalaise, mère de deux bambins, est préoccupée. À un moment donné, ça doit avoir un effet sur le cerveau. J'aimerais changer ça, mais je ne sais pas comment. Karine n'est pas la seule à se poser des questions sur son hygiène numérique et sur ses impacts, entre autres au boulot. Constamment bombardée d'informations, et pas toujours les plus joyeuses, les travailleurs voient leur attention fragmentée, éparpillée, réduite. Le professeur et chercheur à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, Olivier Caillat, appelle cela le flânage cognitif. Travail de surface ou en profondeur. L'une des conséquences de ce désengagement cognitif est le manque d'espace mental pour faire du travail en profondeur, indique M. Caillat. Il y a une différence entre le travail en surface et le travail en profondeur. Le premier n'a pas de valeur ajoutée. Il est nécessaire, mais il est plus de nature administrative. C'est du travail au sujet du travail, comme répondre à des courriels ou remplir des formulaires. Le travail en profondeur, au contraire, fait appel aux compétences spécifiques et il est lié à l'identité professionnelle. Il définit l'occupation et la profession. Or, à force de surcharger son cerveau, le travailleur a plus de mal à se mettre dans ce mode. Selon Samuel Vessière, professeur associé au département de psychologie de l'UQAM, passer d'un écran à l'autre est devenu pour plusieurs machinal et automatique. La surnumérisation du travail et de nos vies en général crée non seulement de l'épuisement, mais un état d'hypervigilance, de l'anxiété de performance, de l'insomnie. Il y a une sorte de passage à vide qui s'installe, explique-t-il. La relation avec le monde extérieur est un peu dissociée. Chez les adultes comme chez les enfants, ça peut vouloir dire qu'on aura encore plus de difficultés à auto-réguler ses humeurs et ses émotions. Équilibrer les tâches. Comment se sortir de ce chaos numérique chronophage et anxiogène? Pour récupérer du temps de travail de qualité, accomplir des tâches et retrouver sa créativité, Olivier Caillat suggère que chaque heure de travail de surface soit égalisée par une heure de travail en profondeur. Disons qu'on doit participer à une réunion d'une heure dans laquelle on n'a pas à participer activement, ce qui est du travail de surface. On peut se réserver immédiatement une plage d'une heure de travail qui demande notre focus, qui consiste en du travail en profondeur, suggère-t-il. Il faut que ça devienne un réflexe, une contre-réponse pour équilibrer le fardeau. Ne pas aménager de pause entre deux réunions en virtuel est une bien mauvaise idée, croit le professeur. Quand quelqu'un annonce qu'il doit quitter, dit-il, car il doit assister à une autre réunion qui commence à l'instant même, c'est un peu le signe d'une perte de contrôle, d'une surcharge. C'est beaucoup de stress. Le cerveau a besoin d'une pause, par exemple de 15 minutes. Mettre son pied à terre. La déconnexion en soirée, la fin de semaine et en vacances est cruciale, souligne Samuel Vessière. Idéalement, on n'utilise pas d'écran 2 heures avant de dormir ni lors des repas en famille, en couple ou entre amis. Et si possible, on décroche de ses courriels les soirs et les week-ends. Une autre stratégie à explorer, selon M. Kaya, est celle de prêcher par l'exemple. Il recommande de cibler les personnes avec qui on entre le plus en communication et d'expliquer ses intentions de minimalisme technologique. On peut annoncer qu'on va retourner ses courriels à certains moments de la journée, indique-t-il. On peut aussi programmer un message d'absence pour expliquer qu'on est en travail profond. Ça peut sembler agressif, mais c'est une façon de s'affirmer, d'envoyer un signal aux autres, de dire « j'ai décidé de reprendre le contrôle ». Faire du ménage. Parmi les autres conseils pour se désencombrer numériquement, le professeur de l'UQAM propose de se retirer des messages groupés souvent inutiles, de revoir son hygiène numérique en éliminant des notifications et des applications dormantes, par exemple. Une dernière suggestion. S'informer. Se documenter. Lire à ce sujet. Parce qu'il n'y a pas de solution universelle. La technologie est débarquée dans nos vies à une vitesse fulgurante et on n'a pas eu le temps de s'ajuster, note Samuel Vessière. Il est encore temps de le faire, entre autres, à travers nos habitudes de travail et les politiques au bureau. C'était « Ces écrans qui nous bouffent le cerveau », un texte de Maude Goyer paru le 11 février 2025 dans La Presse.
L'UPA demande à Québec de resserrer davantage la protection du territoire agricole. Un texte de Pierre Saint-Arnaud de La Presse canadienne paru le 28 janvier 2025 dans Le Devoir. L'Union des producteurs agricoles, UPA, demandera aujourd'hui à Québec d'élever la protection du territoire agricole au rang de priorité nationale pour mettre un frein à ce qu'elle qualifie de « dépossession sournoise » des terres qui alimentent le garde-manger des Québécois. L'UPA se fera entendre ce mardi par la Commission de l'aménagement du territoire à l'ouverture de ses consultations sur le projet de loi numéro 86, soit la loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. L'UPA appuie le projet de loi, mais s'inquiète de certains éléments qu'il contient qui, selon son président, Martin Caron, ouvrent trop de portes aux usages non agricoles. Dans un communiqué émis avant son passage devant la Commission, l'UPA rappelle que la zone agricole ne représente qu'environ 4% du territoire québécois et elle continue néanmoins d'être grugée par l'étalement urbain. L'activité de spéculateurs financiers et immobiliers, les projets industriels et la construction d'infrastructures. Perte de 12 terrains de football par jour. L'UPA fait valoir que le résultat net des ajouts au territoire agricole moins les exclusions et la permission d'usage non agricole, la zone agricole est déficitaire d'environ 57 000 hectares de 1998 à 2022, soit l'équivalent de 12 terrains de football par jour pendant 25 ans. Les inquiétudes par rapport au projet de loi 86 portent notamment sur la permission accordée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, de rendre des décisions favorables au dézonage sans passer par une orientation préliminaire, l'introduction d'assouplissements additionnels pour les usages non agricoles, agrotouristiques et commerciales, notamment, ainsi que la permission sans autorisation de la CPTAQ de certains usages non agricoles jugés sans impact. Le syndicat représentant les producteurs agricoles en a également contre le fait qu'on ne place aucune restriction sur le recours au décret pour contourner la CPTAQ et que le projet de loi n'aborde pas la pression générée par l'implantation croissante de projets énergétiques sur le territoire agricole. Il dénonce également l'absence de dispositions pour freiner la prolifération des usages non agricoles sans que l'on ait procédé à un dézonage agricole en bonne et due forme, dont la construction de résidences, de commerces, d'industries, de mines, d'aménagements d'infrastructures routières, énergétiques ou de télécommunications, notamment. Une menace silencieuse. L'UPA insiste sur le fait que la protection du territoire agricole est aussi une responsabilité stratégique de l'État québécois, les menaces à la sécurité alimentaire de nos concitoyens étant de plus en plus nombreuses et fréquentes, écrit-on en invoquant notamment les changements climatiques, les pandémies, les guerres commerciales et les menaces de l'administration Trump. Les changements législatifs au régime de protection actuel doivent mener à un relâchement significatif de la pression exercée depuis toujours sur le territoire agricole. C'est pourquoi il est essentiel d'ajouter au projet de loi des dispositions permettant de freiner la multiplication des usages non agricoles. Ces exclusions déguisées représentent une menace silencieuse mais bien réelle aux ambitions alimentaires des Québécoises et Québécois, conclut Martin Caron. L'intention du législateur est cependant bien clairement exprimée d'améliorer la protection du territoire agricole. En présentant son projet de loi à la fin de 2024, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, a fait part d'une volonté de lutter contre l'achat de terres par des investisseurs étrangers. D'ailleurs, dès le dépôt du projet de loi au début décembre, des interdictions ont été décrétées et resteront en vigueur jusqu'à son adoption, notamment l'acquisition d'une terre agricole par un fonds d'investissement ou l'acquisition, dans certaines circonstances, d'une terre agricole située à 1000 mètres ou moins d'un périmètre d'urbanisation. Sont également interdites jusqu'à nouvel ordre la construction de serres ou d'autres bâtiments de production végétale de grande superficie situés majoritairement sur des terres de très bonne qualité agronomique et la construction d'une seconde résidence dans une aire de droit acquis résidentiel. C'était « L'UPA demande à Québec de resserrer davantage la protection du territoire agricole », un texte de Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne paru le 28 janvier 2025 dans Le Devoir.